Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Au XVIIIe siècle, le philosophe Jérémy Bentham est le premier à avoir essayé de considérer les animaux autrement que comme des machines. Avant lui, on pensait, avec Descartes, que la faculté de raisonner était le critère pour distinguer un objet d'une personne, donc que les animaux étaient des objets, donc qu'ils n'avaient aucun droit. Bentham pensait, lui, qu'appartiennent à la communauté morale ceux qui ont la capacité de ressentir du plaisir ou de la peine. On peut être cruel à l'égard de son ordinateur, à l'égard des fruits et légumes, mais pas à l'endroit des chats, des chiens qui peuvent en souffrir. Après, la question s'est compliquée avec les araignées, les fourmis, les microbes ou même les bactéries. À quoi les adeptes de la religion Jain répondent en portant un masque de protection pour éviter d'avaler insectes, microbes, etc. Cette conception utilitariste à la Bentham continue d'être très répandue. Elle justifie paradoxalement les souffrances animales dans la mesure où ces souffrances sont susceptibles d'apporter un bien-être supérieur. Récemment, les défenseurs des droits des animaux sont devenus plus radicaux. Appelés antispécistes, ils pensent que la discrimination à l'égard des animaux est comparable à la discrimination raciale et que les crimes commis au nom de l'une sont assimilables à ceux commis au nom de la seconde. Ils estiment en effet que certains animaux ont une vie mentale suffisamment complexe pour avoir une expérience propre de leur bien-être, qu'il convient ainsi de les considérer comme des personnes, qu'ils ont droit à une vie décente, en tout cas la meilleure vie possible, comme le droit de vivre avec leurs enfants, par exemple. Si nous ne sommes pas les seuls à appartenir à la communauté morale, alors il faut se comporter avec les animaux comme on voudrait qu'on se comporte avec nous-mêmes. Ce sont des questions qui préoccupent Inès Lérault, la fameuse autrice de son journal breton, qui pour ce 5e épisode que je vous propose aujourd'hui d'écouter ou de réécouter exceptionnellement, elle est allée regarder dans les yeux des porcs tout au fond pour voir s'ils étaient des machines, des demi-personnes ou des êtres moraux à traiter de manière kantienne. C'est notre rediff de la semaine à ne pas manquer tout de suite dans les pieds sur terre et dans les yeux des porcs.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour Inès, bienvenue en Bretagne.
Bonjour.
Donc voilà, bienvenue dans notre bureau d'élevage.
J'ai un problème. Depuis mon installation en Bretagne, il y a 4 mois, j'ai visité pour la première fois une porcherie industrielle.
Ça c'est assez large.
Ça, c'est la combinaison pour aller dans la maternité.
Ça se met comme une côte.
Alors, j'ai vu des couloirs à n'en plus finir, et sur le béton, détruits, bloqués dans des cages individuelles, à peine plus grandes qu'elles.
On a craqué, hein, ça coûte une fortune, ça.
Pas un brin de paille, pas une fenêtre. J'ai entendu des chocs métalliques et des hurlements si forts que l'éleveur est obligé de mettre un casque anti-bruit pour nourrir ses animaux.
C'est une tenue Hiroshima, ça.
Ouais.
Je me suis retenue de juger, mais impossible d'éviter ces milliers d'yeux qui vous fixent. Ces corps un peu trop roses et trop nus.
Ah, vous mettez un filet sur la tête aussi?
Ouais, c'est pour pas que vous ayez l'odeur dans vos cheveux.
Pendant plusieurs nuits, j'ai fait des cauchemars. Je ne pouvais surmonter ce choc qu'en allant parler avec des éleveurs. François, dont l'élevage produit 7500 porcs par an, m'a ouvert ses portes. C'est le 5e épisode de mon journal breton.
Moi, je m'appelle François, je suis agriculteur-éleveur dans les Côtes-d'Armor.
Vous avez quel âge ?
39 ans. Ça fait 13 ans que je suis installé.
Donc là, pour expliquer, on est dans un grand couloir gris. On est devant une fenêtre. Par la fenêtre, on voit 10 cages dans lesquelles il y a des truies.
Ce sont des truies qui ne produisent que du porcelet.
Elles font
2 portées et demie par an. 5 portées tous les 2 ans. Elles font que ça de leur carrière. elles sont inséminées, elles font des petits, elles sont réinséminées, et voilà.
Et autour d'elles, il y a un petit parc où jouent les porcelets.
C'est la place des porcelets. Alors, les cases que vous voyez, c'est en fait tout simplement pour que la mère puisse bien rester en place toute la durée de l'allaitement. Elle peut avancer, reculer, mais elle ne peut pas se retourner sur elle-même.
Elle peut avancer de 30 cm.
30, 40 cm, oui. On les met en cage, pourquoi ? Pour pas qu'ils écrasent du porcelet. La mère est capable de s'allonger sur toute la portée. C'est pas si réfléchi que ça, un cochon. Elle est capable de se coucher sur son porcelet, même quand elle est en liberté. Ici, on a des truies qui mangent leur porcelet à la naissance. Ça, c'est courant. Je me sens pas comme quelqu'un qui martyrise des animaux. C'est là où on a une étiquette de coller dans le dos et ça marche pas. On n'est pas des méchants, on n'est pas des... Ici, vous avez 320 truies, il n'y a pas de maltraitance pour autant dans ces fermes-là. Et bien souvent, c'est ces grandes unités-là qui sont les mieux gérées en termes de sanitaire et en termes de productivité. On fait de la qualité industrielle aujourd'hui, il faut le savoir. Et je suis pas sûr que les cochons ou les animaux de mes grands-parents étaient meilleurs que les miens aujourd'hui. Et je suis pas sûr qu'à l'époque, du temps de nos grands-parents, les animaux étaient correctement nourris. Je pense même l'inverse.
Alors, donc, là, c'est des tables. Alors, ici, à droite,
on appelle ça une verraterie. La verraterie, ça consiste à quoi ? Quand des petits sont sevrés des mères, les truies reviennent en chaleur et on les réinsémine. Alors là, ils vont rester 3 semaines.
C'est un grand hangar et c'est sur un sol caillebotis, béton ajouré.
Voilà, donc il y a une fosse en dessous.
Toutes les déjections vont en dessous.
Voilà.
Donc les images, c'est frappant, c'est gris avec des néons.
C'est gris parce que c'est du panneau béton. Et on a 6 rangées de 20 truies, 120 places qu'on a. En fait, c'est des boxes tout simples de 60 cm de large. Elles peuvent faire 2-3 pas en avant, 2-3 pas en arrière. Il y a des fois, elles veulent pas sortir. Il n'y a pas moyen de les faire sortir. Elles restent là, elles ne bougent pas. Et on se rend compte qu'un animal est capable de rester dans une cage et de lui-même. Et un cochon, lui-même, c'est feignant. Hein. Ça mange, ça dort, terminé. On traite correctement l'animal. C'est invraisemblable de faire du mal à des animaux. Enfin, c'est nul, en fait, ça rime à rien. Sauf que je pense qu'on va un peu loin dans les choses en disant que le cochon ceci pense, réfléchit, tout ça. C'est un peu subtil. Moi, ça me parle pas. On peut pas dresser un cochon. On pourrait dresser un cochon, bien sûr, mais dans un type d'élevage, on peut pas passer du temps à chaque mère. En fait, c'est pas possible de les dresser un par un. Mais... une vache, oui, parce que ça dure plus dans le temps. Il y a beaucoup plus de contact avec l'humain. Puis une vache, c'est beaucoup plus réfléchi. Mais comment un cochon, ça reste un cochon. Une vache va rentrer toute seule de son enclos à son étable. Mais un cochon, vous mettez un cochon dehors, il va dans tous les sens. Un cochon, c'est comme ça. Sans dénigrer le cochon, mais c'est un peu bête, un cochon. C'est bête.
Ça fait 10 km dans une journée ici.
Il y a beaucoup de couloirs, dis donc.
Ouais. Alors, on va juste ressortir. Je suis sûr que vous n'avez pas vu ça.
J'ai un peu regardé.
Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, il y a une affiche sur votre élevage. Il y a écrit « Je produis bien, je produis sain ». Il y a la photo de vous au milieu de votre champ de blé. Il y a un épi de maïs, il y a du saucisson et il y a 2 porcelets en photo. Il y a 4 photos.
C'est une affiche toute simple de publicité pour les gens qui rentrent dans l'élevage, pour leur montrer avec qui on travaille et dans lesquelles conditions on travaille, notamment en termes de bien-être et en termes de qualité aussi. En fait, on peut dire que ça, c'est de la transparence.
Mais c'est quoi, porc bien-être ?
Alors, porc bien-être, je vais vous montrer ce que c'est que le porc bien-être au niveau des mères. À droite.
Donc là, je vais vous montrer une salle qu'on a remplie, que j'ai remplie hier.
Voilà, alors ça c'est le port bien-être. On fait nous-mêmes nos échographies et quand elles sont confirmées pleines, on les met ici.
Quand elles sont enceintes.
Voilà. Donc on est dans une salle, il y a 55 places.
C'est une salle qui n'a pas d'entrée de jour, qui est éclairée par des néons. Et du coup, c'est donc toujours un sol en béton ajouré, caillebotis.
C'est pas une salle tout à fait ouverte parce qu'on a comme des box ouverts faits pour que les animaux puissent se coucher, ce qu'on appelle en randonnion, avec une zone libre dans le milieu pour qu'ils puissent venir se nourrir et marcher au milieu. C'est ce qu'on appelle les truies en liberté.
Donc là, je suis tout près d'une truie. Ça a des yeux étonnants quand même, les cochons. Hein.
Les yeux ? Bah moi, ça me fait pas tellement vibrer maintenant. C'est les yeux marrons, les yeux de cochon. Je sais pas.
Ils nous fixent beaucoup quand même.
Ah bah oui.
Non, mais ça fixe, parce que ça fixe. Par contre, est-ce que ça pense ? Je suis pas sûr. Faut pas oublier qu'on est dans un élevage de production. Moi, je passe pas mon temps à caresser les cochons. Enfin, je les dénigre pas. C'est un travail, c'est pas une garderie. Tous les 4 semaines, ici, il y a 7-8 mères qui partent à l'abattoir. C'est comme ça, ça fait partie du renouvellement. Et une mère, quand elle a fait 7 portées, généralement, c'est fini. Hein. Sa carrière est finie. Hein. On la garde pas. Hein. 2 ans et demi, 3 ans, quoi, maximum.
Quand elle a 2 ans et demi, 3 ans.
3 ans, hop, terminé. Généralement, ici, il y a très peu de 8e portée. Parce que la production baisse à ce moment-là.
La production de porcelet ?
Bah oui. Moi, je fais ce métier-là pour gagner ma vie. Une truie qui va faire 2 porcelets la première fois, qui va en faire 3 le deuxième coup. La troisième fois, si elle monte pas un peu plus, elle va à l'abattoir. Hein. Terminé. Hein. Une cochette. Ce qu'on appelle une cochette, c'est une truie qui n'a jamais eu de petit. Elle rentre dans la verraterie. On l'insémine. Mettons, elle ne retient pas. C'est-à-dire qu'elle est déclarée vide à l'échographie. On lui redonne une deuxième chance. Si à la deuxième chance, elle n'a pas fait de petit, abattoir. Hein. On ne garde pas ça. On fait pas du social. On fait pas. C'est vrai. Je leur dis pas au revoir quand elles montent dans le camion. Hein. C'est vrai.
Ça fait quand même un drôle d'effet quand elles nous regardent comme ça à travers les barreaux.
Si vous croyez qu'elles vous regardent là. Elle regarde dans le vague. C'est dans le vague. On peut pas dire qu'elle pense à quelque chose ou quoi que ce soit, on peut rien dire là. Puis c'est passif un cochon, c'est pas actif. Ça reste comme ça, ils sont tout le temps comme ça. C'est vivant mais ça bouge pas. C'est des petites usines de production. Mais c'est vrai, c'est pas. Elles sont là pour produire, on n'en fait rien d'autre. Hein. Et après, ce qu'on appelle le charcutier, les porcelets qui ont grandi, c'est-à-dire le porc engraissé, va après à l'industrie des viandes. Le but de l'opération chez nous, c'est de sortir un maximum de kilos de viande à l'année.
Moi, j'ai entendu parler de gens qui élèvent très peu de truies, genre en plein air, et qui subissent pas la crise.
Ouais, mais moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de travailler les pieds et les mains dans la boue. Et puis, pour travailler en plein air, il faut avoir le terrain. J'ai suivi des élevages en plein air dans la Beauce et le terrain s'y prêtait. Ici, vous mettez des cochons en plein air, ça va être un sacré chantier. Hein. Il va falloir aller avec des engins agricoles pour sortir les cochons de la boue. Hein. Ah ben c'est sûr. Hein. En plein hiver, ils vont s'enliser. Hein. Puis de toute façon, si c'est pour faire ce métier-là, ça m'intéresse pas. Ça caille l'hiver. Hein. Et puis il pleut en plus. Le port camping, c'est bien, mais pas ici. Alors après, faire du cochon plein air, faire du cochon bio, faire oui, plein de choses, oui. Mais moi, je peux pas par rapport à l'investissement. Aujourd'hui, il est hors de question que j'aille à la banque en disant, bah tiens, je vais me mettre à faire du bio. Ils vont me dire, ouais, bah, bravo, bah, vous avez déjà payé ce que vous devez, puis après, on verra. Et je veux pas être reçu. Hein. Dans l'investissement qu'on a fait, on a investi 1 300 000 euros. On arrive dans des chiffres que même nous, on a du mal à maîtriser. Quand on lit notre bilan financier, on le lit avec la comptable, un conseiller de gestion et parfois un conseiller juridique. Je vais vous dire franchement, je suis incapable de lire un bilan tout seul.
Et vous remboursez combien de mensualités?
C'est 175-180 000 euros par an. Aujourd'hui, si je n'avais pas d'emprunt bancaire, si je pouvais partir, je partirais. Mais je peux pas, je suis lié. Si je pouvais quitter ma fonction, je le ferais. Je peux pas. Vous parlez pas un dépressif, hein. Les gens qui se suicident en agricole, je pense que ces gens-là y ont mis leur corps et leur âme dans ce métier. Moi, j'y mets mon corps tous les jours à travailler, mais physiquement, j'y mets pas mon âme. Aujourd'hui, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais je ne vais pas me suicider pour des cochons.
En sortant de chez François, je n'étais pas sûre que l'éleveur industriel, lui, soit heureux. Mais en ce qui concerne les truies, mon problème était en voie de résolution. En effet, on pouvait estimer que sous une apparence animale, ces truies étaient en fait des machines ou des quasi-machines. Lui, François, parlait d'usine. Mais pourquoi pas? Comment de toute façon pourraient-elles développer une conscience animale dans cet univers restreint qu'elles ont toujours connu? J'ai donc décidé de stopper net mon affect pour les truies industrielles.
Puis attention, il y a un peu de boue, c'est l'hiver, et les fermes en Bretagne, l'hiver, ben, y a de la boue.
Mais c'est alors que j'ai rencontré Thierry Thomas,
j'allume la lumière,
dont les 84 truies produisent un peu moins de 2000 porcs par an.
Parce que l'inconvénient dans les élevages de porcs, c'est qu'on travaille quand même beaucoup en lumière artificielle et avec des lumières de néon. Alors, voilà. Ici, devant nous, on a des truies qui sont bloquées dans des cases individuelles. C'est vrai que c'est debout, couché, un petit peu de marche arrière, un petit peu de marche avant. Cette image n'est pas la meilleure qui soit, hein. Des truies qui sont bloquées du matin au soir pendant 3 semaines, parce que c'est ça la réalité. Au début, on ne le faisait pas. Au début, on avait des cases qui ne se fermaient pas par l'arrière. Et les bagarres qu'il pouvait y avoir entre elles faisaient qu'il y avait moins d'embryons à se fixer dans la matrice. Vous savez que la matrice, c'est l'utérus. Et donc, nous, à un moment, on a considéré que le blocage évitait la compétition et que quand il n'y avait plus de compétition, finalement, on avait un peu plus de porcelets à naître. Voilà, c'est ça l'objectif. Sur notre droite, on a une truie qui est allongée de tout son long dans sa case. Elle est enfermée avec ses porcelets autour. Ça semble là aussi assez barbare d'avoir des animaux bloqués comme ça. Mais le bien-être des porcelets, c'est aussi de ne pas se faire écraser par leur mère. Et puis pour nous protéger, nous aussi, parce qu'une truie, lorsqu'elle vient de faire ses petits, elle peut être très agressive si elle entend un de ses porcelets pousser un cri.
Elle reste combien de temps bloquée?
4 semaines, c'est-à-dire le temps de la mise bas et de l'allaitement jusqu'à ce que les porcelets soient sevrés. Il faut savoir qu'avant, les truies pouvaient être bloquées 365 jours par an dans une même case.
Avant les normes bien-être.
Avant les normes bien-être. Et avant les normes bien-être où on a imposé des cages à truies, avant, les truies étaient sanglées. C'est-à-dire qu'elles avaient une sangle autour de la poitrine et une chaîne qui les liait au sol. Alors, je pense que tout le monde ne le verra pas comme ça, mais il y a quand même quelques progrès. Les progrès, c'est d'obliger les éleveurs à avoir des périodes entières où les truies sont libres de leur mouvement. C'est-à-dire qu'elles peuvent tourner, retourner, fuir, ou être en groupe, se frotter les unes aux autres. Moi, je vois dans mon bâtiment, souvent, les truies dorment couchées les unes sur les autres, ou à côté des autres. Elles se tiennent chaud, elles se tiennent compagnie aussi en même temps. Elles sont socialisées à ces moments-là. Moi, je trouve que vraiment les normes bien-être, indépendamment du fait que ça coûte cher à l'éleveur, parce que c'est une réalité, ça coûte de l'argent à l'éleveur, c'est un progrès. Parce que ces normes bien-être-là, elles ont été négociées.
Elles ont été négociées entre les intérêts des animaux et les intérêts économiques.
Non, pas les intérêts des animaux. La pression des consommateurs et des associations de protection de l'environnement qui commençaient à dire « ça suffit, quoi ». Bloquer les animaux 365 jours, ça va pas. Et le poids des consommateurs, il est énorme dans cette affaire-là, parce que le consommateur peut dire demain, écoutez, nous, vos cochons industriels, parce que c'est de l'industrie et parce que vous les élevez dans des conditions inacceptables, on arrête de les acheter. Moi, je me suis installé en 1985. Chantal s'était installée 2 ans avant moi en association avec son frère et ses parents. Et on a démarré un peu le cochon par hasard en allant visiter des élevages plein air en Angleterre où effectivement on a vu gambader des porcelets, des bandes de porcelets entières qui avaient l'air de faire les fous dans de l'herbe verte sous un soleil radieux. Bah oui, c'était une image tellement plaisante que ça nous a donné envie de démarrer cette activité-là. On a démarré dans le cochon vraiment pour ça. Au début, toutes nos truies passaient leur vie dehors dans les champs. Au bout de 10 ans, c'est notre bien-être à nous dont il a été question, parce que on est en Bretagne, sur des sols assez lourds, et dans une région où il pleut quand même pas mal, l'hiver en particulier. Et donc, de nous tirer les bottes de la boue pendant 6 mois, on a fini par se lasser et se fatiguer. Et donc, on a construit des bâtiments qui nous permettent aujourd'hui de travailler dans de meilleures conditions. Là, en ce moment, on est au mois de fin février, début mars, pour aller soigner les truies dehors, parce que j'en ai encore dehors. Mes truies vont toutes faire un séjour de 5 semaines dehors avant de rentrer en maternité, parce que je me suis jamais résolu à ce qu'elles n'aillent pas gambader un peu dans les champs. J'ai quand même tenu bon de ce côté-là, que pour y aller, il faut bagarrer avec les truies, parce que d'abord, elles sont dans nos pattes à nous empêcher d'avancer parce qu'elles sont impatientes de manger, et que nous, il faut qu'on garde notre équilibre avec les pieds dans la boue. Je vous assure qu'il y a des moments, il y a des jours où c'est sport. Mais bon, voilà, je trouve que ça en vaut la peine, parce que s'il y a 6 mois d'hiver, il faut aussi se rappeler qu'il y a 6 mois d'été, et que les 6 mois d'été, ils sont quand même vachement sympas. Le bien-être animal et le bien-être humain ne sont pas forcément incompatibles. Il faut essayer de trouver un compromis entre les deux, et nous, on a trouvé que le bâtiment, c'était quand même franchement mieux pour nous.
Pour votre physique, vous avez décidé de plutôt travailler quand même sur Caillebotti.
Je ne suis pas sûr qu'on ait choisi les Caillebotti. Je pense qu'on n'a pas trop réfléchi. C'était la solution la plus simple qu'on nous proposait, la plus en vogue, la plus répandue. Je pense que c'est un peu par fainéantise, par manque de recherche, qu'on s'est laissé aller à partir sur le Caillebotti. Et puis aussi parce que les résultats techniques sur Caillebotti étaient excellents. Faut pas qu'on soit complètement naïf non plus.
Quoi les résultats techniques ?
Les résultats techniques, c'est la croissance, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gain moyen quotidien, c'est-à-dire les centaines de grammes que les cochons prennent par jour. Vous savez qu'un cochon, quand ça naît, il pèse 1,5 kg. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, il pèse 110 kilos. Je ne sais pas si vous imaginez la croissance de ces animaux-là. Alors, on fait tout pour que presque toute leur alimentation leur serve à grossir et à grandir. Tout est fait pour ça. C'est-à-dire que les températures dans lesquelles ils sont élevés, les mouvements qu'ils ont à faire, tout ça, c'est limité pour que tout profite au gain. Voilà. C'est l'économie qui prime.
Et alors qu'en extérieur, il pousse moins vite.
C'est clair. Mon fils, dans le Tarn, à Vaour, ses cochons mettent le double de temps à pousser que les miens. Lui, il a des truies et des porcs élevés en plein air toute l'année. Je dois dire que quand je mange une côtelette chez lui, je trouve qu'elles sont meilleures que chez moi. Voilà. Alors, on va aller les déloger. On va leur dire salut, elles vont être surprises parce que cette époque-ci, les vents sont à l'est et elles sont entassées dans leur cabane. Elles se tiennent chaud, mais au moindre rayon de soleil, quand le soleil commence à chauffer un petit peu, on les voit assez fréquemment se baigner. Ce qu'on leur fait aussi, c'est qu'on leur fait des mares debout où elles vont se rouler, quoi. C'est un vrai plaisir, ça a l'air d'être délicieux.
Elles sont dans des petits abris en tôle.
Avec une bonne couche de paille sous le ventre. Celle-ci, c'est séjourne là 5 semaines avant de rentrer en maternité. Ça leur permet, un, de se dégourdir les pattes et donc d'avoir un peu plus de tonus musculaire pour la mise bas. Et puis ce plaisir qu'elles ont, parce que c'est un plaisir manifeste, on n'a jamais de mal à les faire sortir, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse soleil, quand elles sortent du bâtiment, c'est toujours... on les voit, on les sent contentes de sortir, quoi. Voilà, viens de nous faire une visite. En fait, le cochon, c'est un animal qui aime bien la compagnie, y compris de l'éleveur, qui parfois leur fait quelques misères, on leur fait quelques vaccins, on leur pique leur porcelet au bout de 4 semaines, ce qui est quand même très récent, mais vous voyez, ils viennent nous voir, ils viennent nous sentir, ils viennent se frotter à nous, voilà. Et ça, quand on est éleveur, c'est une sacrée récompense, quoi.
Ah ouais,
c'est une récompense que les animaux nous fassent confiance, c'est, C'est énorme. On fait ce métier-là parce qu'on aime bien. On est un peu enivré par l'odeur des animaux. On est un peu... Voilà, il y a leur chaleur, il y a leur odeur, il y a leur grognement, tout ça. Et puis, c'est pas des animaux imbéciles du tout, c'est des animaux intelligents. Si j'en crois les médecins, c'est l'animal le plus proche de l'homme au niveau anatomique. C'est un animal qui se dresse apparemment très très bien. Il y a des cochons de compagnie, ça existe. On lui donne un endroit pour aller faire ses besoins et il finit par comprendre que c'est là qu'il va les faire. Chez nous, les cochons, quand ils naissent, on sait très bien où ça se termine. Et la dernière phase de l'élevage, c'est l'abattoir. C'est pas quelque chose de tellement réjouissant, mais notre boulot, c'est d'élever des animaux dont on sait très bien qu'on va les bouffer un jour. Voilà. Donc, on est aussi obligé d'avoir à la fois de la proximité avec les animaux, parce que c'est la raison pour laquelle on fait de l'élevage, et puis d'avoir un petit peu de distance, parce que sinon, on deviendrait complètement paranoïaque à tuer les animaux qu'on aime. C'est pas des animaux de compagnie, c'est des animaux d'élevage. Voilà. On va se rentrer, Inès, parce qu'on va, attraper la crève, là.
Et pourquoi vous dites que c'est des animaux intelligents ?
Parce que c'est des animaux qui nous observent. Regardez les yeux, quoi. Ils nous observent. Sans doute plus qu'on passe de temps à les observer. Eux nous regardent et savent très précisément à qui ils ont affaire.
C'était Dans les yeux des porcs, un reportage d'Inès Leroux réalisé par Éric Lancien avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy et un coup de main de François Connac. Merci à François, à Thierry Thomas, à Marie-Pierre et à Alice Sternberg. Sachez que depuis la première diffusion de cet épisode du journal breton en mars 2016, le premier éleveur que nous avions rencontré travaille toujours 70 heures par semaine et parvient en ce moment à gagner un SMIG, bientôt revalorisé donc. Il a dit à Inès, on est obligé de continuer à cause des emprunts bancaires, on est tenu par la finance. Le second lui est à la retraite depuis un an et il a eu la chance de trouver un acheteur pour son exploitation, un jeune homme qui est en train de passer tout son élevage en bio. Rendez-vous compte, c'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Camille Richir, notre stagiaire.